accent d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Your podcast, dead ass broke. My podcast, Mr. Joe Rogan.
Bonjour, 5 heures passées chaque jour devant un écran pour les adultes, 4 heures pour les enfants européens, c'est 2 heures de plus qu'il y a 10 ans. Dans ce monde envahi par les images, y a-t-il encore de la place pour le son ? Oui, répondent les professionnels du secteur et notamment en France, en citant ce chiffre, 22,8% des internautes écoutent chaque mois des émissions en replay ou des podcasts, une pratique qui se développe aussi grâce aux enceintes connectées. Résultat, des nouvelles sociétés de production se lancent dans la fiction audio. L'objectif, devenir en quelque sorte le Netflix du son et concurrencer les séries télévisées. À l'occasion du Paris Podcast Festival, Frédéric Lebel est allé rencontrer les acteurs de cette nouvelle économie.
Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute.
Il fut un temps où la fiction audio évoquait au mieux Orson Welles et son désormais célèbre récit de Martiens débarquant sur Terre, au pire, une dramatique, disons un peu désuète, pour soirées diverses en télé. Mais le genre revient par la grande porte, celle d'Internet et des podcasts, curieusement remis au goût du jour par un trop-plein d'images.
Il y a un moment où on ne peut pas regarder des vidéos tout le temps, on ne peut pas être devant un écran tout le temps. Quand on conduit, quand on fait la cuisine, quand on marche dans la rue, quand on fait son jogging, il y a tout un tas d'usages dont la mobilité et le multitâche auquel l'audio répond très bien.
Création si belle.
Donner à entendre des balado-fictions aujourd'hui gratuitement, mais bientôt par abonnement, c'est tout l'objectif de Virginie Maire, qui a monté il y a 6 mois son site et sa société de production si belle. Comme tous les acteurs du marché, elle se rêve en prochain Netflix de la fiction audio. Mais ils sont nombreux à caresser la même ambition. Le géant de la musique en streaming, le suédois Spotify, a ainsi racheté en février dernier Gimlet, une société de production américaine. Ou plutôt la société de production new-yorkaise qui a produit le grand podcast de fiction, Homecoming, produit ensuite au cinéma avec Julia Roberts, autant dire une pure fiction pour les producteurs hexagonaux.
Hello.
The reason of this call is to inform you that IRS is filing a lawsuit Jesus. Against you.
What was that?
Just a robocall.
En attendant un succès planétaire, Spotify a lancé fin 2019 sa première série audio en France, L'Employé, 8 épisodes où l'on suit le fonctionnaire d'un État totalitaire menant des interrogatoires musclés d'opposants au régime. Au casting, 2 acteurs français de cinéma, de théâtre et de télévision, Raphaël Personnaz et Thibaut de Montalembert.
Ah, c'est donc avec ça que vous enregistrez ?
Oui, oui. Ne touchez pas, s'il vous plaît.
Oh, pardon, excusez-moi.
Merci, je préfère qu'on ne touche pas.
On peut créer avec le son des univers poétiques, des univers politiques, des univers, etc., imaginaires, qui ne passent pas forcément par le récit. Et dans cet épisode, ce que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire que la logorée, au bout d'un moment, on perd un peu le fil, mais par contre, on est pris par une espèce d'angoisse et de tension qui monte, qui passe par quelque chose, qui est le grain de la voix, qui est quelque chose d'anxiogène qui monte.
Ce cadavre qui se faisait dévorer sous mes yeux, qui grouillait, qui donnait presque l'impression d'être encore vivant, tant les larves le faisaient bouger. Quel spectacle! Alors je l'ai pris en photo.
Thibaut de Montalembert et son timbre si reconnaissable n'est pas un converti de circonstance. Il a tourné dans de nombreuses dramatiques de la radio publique, France Culture. Il a aussi enregistré 30 de livres audio.
Ça a commencé parce qu'il se trouve que j'ai un frère qui est devenu aveugle, qui est écrivain, et à qui je me suis mis à lire des livres quand j'avais 15 ans, à voix haute. Et le plaisir de ça m'est venu comme ça, en fait. Et la voix ne trompe pas. L'œil peut mentir, la vision peut mentir, l'image peut mentir, la voix ne trompe pas. Ou difficilement, vraiment beaucoup plus difficilement. Pour revenir à mon frère, justement, qui ne m'a jamais vu physiquement jouer, mais qui est venu à tous les spectacles que j'ai pu faire, il a en général le jugement le plus exact sur la qualité de ce que je fais. Il sait tout de suite si je suis dedans ou pas.
Vous perdez votre sang-froid rapidement. Vous semblez tout étriqué dans votre costume.
Vous jouez à quoi, en fait ?
Dans cette série, l'acteur nous emporte avec justesse. Victor Bonnefoy est à la fois le scénariste et le réalisateur de L'Employé. Il ne conçoit pas le tournage différemment d'une fiction télé.
L'enregistrement n'est jamais statique parce qu'il faut que l'audio ait quand même une certaine physicalité. C'est-à-dire que si un personnage doit tomber, si un personnage doit être en mouvement, il faut absolument qu'il soit en mouvement en le jouant. Sinon, on s'entend que c'est quelqu'un debout derrière un micro. Donc on dirige au final comme on dirigerait un film de cinéma, à la différence qu'on a coupé les caméras, en fait. La vraie différence est que les acteurs ont le texte, ce qui leur permet de parfois se reposer, de pas avoir de trous et de pouvoir enchaîner des grands plans séquences et de tourner tout un épisode d'un coup et ensuite de pouvoir reprendre certaines choses au montage, etc. Mais en tout cas, il faut absolument que s'il y a une scène d'action, cette scène d'action soit jouée. C'est-à-dire qu'au final, certaines scènes étaient prises avec des micros assez classiques où on parle devant, mais certaines scènes étaient perchées comme au cinéma parce qu'il fallait créer cette action et il fallait que même à l'audio, on ressente que les personnages sont en mouvement.
Je vous réexplique ça calmement.
Non, c'est moi qui vais...
Ne me coupez pas ! Ne me coupez pas ! Me suis-je bien fait comprendre ?
Avec 232 millions d'utilisateurs dans le monde, Spotify joue dans la cour des grands. Sur le marché américain et allemand, l'audience de ses podcasts est déjà en hausse. De quoi imaginer de belles coproductions internationales ? Antoine Monin, responsable des relations avec les créateurs.
Ça se traduit pas, ça s'adapte. Donc, par exemple, on travaille avec Gimlet à l'adaptation d'un format qu'ils ont fait aux États-Unis qui s'appelle Sandra. Ben, en France, ça va s'appeler Sarah. On n'est pas très loin, mais c'est pas comme un film qu'on va doubler. Nous, on peut changer les décors dans l'audio. Voilà. Donc, on se dit, où est-ce qu'on va se placer? Est-ce qu'on reste dans une vieille ville mid-town américaine ou est-ce qu'on va aller dans le centre de la France? Donc, c'est un vrai travail d'adaptation. C'est là aussi que l'aspect créatif est assez intéressant.
Welcome to Orbital Teledynamics. Can I help you?
Hi, I'm Helen Pereira. Today's my first day.
Une fiction audio coûte 50 fois moins cher à produire qu'une fiction télé. La liberté est donc plus grande pour les auteurs.
Ils n'ont pas d'obligation de répondre à un cahier des charges qui est aussi problématique que sur l'audiovisuel parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes financiers. Ça veut dire que dans un épisode, moi, s'ils vont partir au Moyen-Âge et puis l'épisode d'après sur la planète Mars, ils peuvent le faire. C'est juste une ambiance sonore. On ne va pas avoir de problématique de décor, de costume, etc. Donc on est sur des modèles économiques qui sont quand même beaucoup plus légers.
Sur sa plateforme Cybelle, Virginie Maire présente déjà 25 productions originales comme Gourou.
À la fois prophète, messie et guide initiatique, le gourou entend apporter la vérité à ses disciples qui le vénèrent, tel un dieu vivant au sein de leur secte.
Elles seront disponibles en anglais et en espagnol dès 2020. En 2022, disent les études, le marché du podcast pourrait drainer 4,5% des dépenses publicitaires audio.
Vous devriez couper l'enregistrement.
I had my first crush in season 2. She passed me notes and filled our hands with glue. And in my corduroys we'd walk to school.
Gagner de nouveaux marchés, c'est aussi l'objectif de la vidéo à la demande. Les plateformes de contenu type Amazon, Netflix ou HBO sont sans cesse à la recherche de nouvelles productions. Une volonté de croissance qui peut contribuer à faire émerger des auteurs. Exemple dans les Balkans, en 2018, Netflix diffusait pour la première fois une série produite en Croatie, The Paper, une première qui a donné un coup de pouce aux fictions venues du sud-est de l'Europe, Simon Rico.
Pour les jeunes cinéastes des Balkans, le plus difficile, c'est de faire financer leur création. Depuis l'éclatement de la Yougoslavie, les petits pays de la région ont en effet drastiquement réduit les budgets alloués à la culture. Pour parvenir à tourner, il faut donc le plus souvent privilégier le système D et miser sur des subventions internationales, pour la plupart venues des centres cinématographiques européens. Mais depuis quelques années, les jeunes talents des Balkans peuvent espérer compter sur de nouveaux soutiens privés venus de l'autre côté de l'Atlantique. HBO a été la première à investir l'Est de l'Europe et les Balkans. La célèbre chaîne privée américaine a commencé à y financer des documentaires dès 2007 avant de se mettre à la fiction 3 ans plus tard, soutenant divers formats de la mini-série au long métrage. Ce n'était pas une décision philanthropique, explique la direction d'HBO, mais la volonté de gagner de nouveaux marchés. Les deux autres géants américains de la VOD, Netflix et Amazon, lui ont emboîté le pas autour de 2015 après avoir constaté le succès des jeunes réalisateurs balkaniques dans les festivals du monde entier. L'arrivée de ces hommes l'ogre de la VOD, a évidemment rebattu les cartes de la production audiovisuelle régionale, offrant potentiellement une visibilité mondiale à des réalisateurs balkaniques qui peinent toujours à trouver des distributeurs internationaux pour diffuser leurs créations. Mais les bailleurs publics européens mettent en garde contre ce miroir aux alouettes, à commencer par Eurimage, le fonds culturel du Conseil de l'Europe. Son directeur exécutif, Roberto Ola, souligne que le problème avec ces géants de la VOD, ce sont leurs contrats d'exclusivité qui empêchent les auteurs de présenter leurs œuvres dans les festivals, avec le risque de finir dans le puits sans fond de leur catalogue et de n'être plus visible du tout. Cet avertissement ne semble pas pour le moment atteindre l'optimisme des jeunes talents des Balkans qui misent beaucoup sur cette nouvelle opportunité venue doper leur créativité.
Inspecteur Christian Galake.
Sunt urmărit. E o mașină în dreapta mea. Nu te uita.
Trebuie să mă ajut să scot pe Joel din pușcărie.
C'est un paradoxe. En Roumanie, depuis une quinzaine d'années, le cinéma est à son apogée. Vu dans le monde entier, les films roumains sont régulièrement primés à l'étranger, mais dans son propre pays, ce cinéma d'auteur peine à rencontrer un public et de moins en moins de Roumains fréquentent les salles de cinéma. Les explications de Benjamin Ribou.
Depuis la mort de Dante Lazarescu, le film de Cristi Puiu réalisé en 2005, les films roumains raflent tout sur leur passage dans les festivals les plus prestigieux au monde. Palme d'Or à Cannes, Ours d'Or à Berlin et bien d'autres. Une aubaine pour les Corneliu Porumboiu, Christian Mungiu ou encore Cristi Puiu et Colin Peternetzer, les plus connus des réalisateurs roumains, mais aussi derrière pour toute une flopée de nouveaux venus surfant sur un succès qui ne se dément pas. À tel point que le cinéma roumain post 2000 et sa veine directe a souvent été qualifié de nouvelle vague. Point commun à ces films, en effet, un certain minimalisme stylistique allant de pair avec des budgets réduits et une veine réaliste. Sans oublier un sens du dialogue et un humour sarcastique qui font mouche. La Roumanie post-communiste et ses situations tantôt dramatiques, tantôt ubuesques, faisant le reste. Pourtant, ce cinéma qui s'exporte et se finance est loin de passionner les foules au pays. Le cinéma en général en Roumanie fait difficilement recette. Malgré une hausse, certes, ces dernières années, le pays possède l'un des plus faibles taux de fréquentation des salles de toute l'Europe, avec 14,5 millions d'entrées en 2018. La raison en est simple, la Roumanie est l'un des pays qui compte le moins de salles obscures par habitant de l'Union européenne, 90 au total, malgré un patrimoine impressionnant. Mais il y a autre chose sans doute qui rebute le public local. Lassé de se faire taper sur les doigts ou encore moquer dans leurs films, les Roumains, en quête de normalité dans la vraie vie, jugent parfois leur cinéma ennuyeux, voire néfaste pour l'image de leur pays. À l'ère du téléchargement illégal, véritable sport national en Roumanie, on préfère se gaver de productions étrangères et laisser de côté les tracas du quotidien, au moins le temps d'un film. En attendant le succès chez eux, les talentueux réalisateurs autochtones, eux, continuent de surfer sur la vague en portant un regard non complaisant sur leur pays.
Avec 213 millions d'entrées dans les salles de cinéma l'année dernière en France, le grand écran se porte bien. Mais qu'en est-il dans le reste de l'Europe? Quel est l'état de santé du 7e art sur notre continent et dans le pays où le cinéma est né, la France? Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Léa-Lisa.
L'industrie française du cinéma occupe-t-elle une place spécifique en Europe?
Incontestablement. Tout d'abord et traditionnellement, la France représente le premier marché cinématographique d'Europe. Pour des raisons qui remontent à loin, ne serait-ce que parce que le cinéma est né dans l'Hexagone, les Français vont plus, voire beaucoup plus, au cinéma que leurs voisins. Si l'on considère l'année 2018, les chiffres de l'an dernier n'étant pas tous disponibles, 201 millions de tickets d'entrée se sont vendus en France contre 177 millions au Royaume-Uni, 105 en Allemagne, 99 en Espagne et 92 millions en Italie. Même la Grande Russie fait un peu moins bien que l'Hexagone.
Alors est-ce que la France produit plus de films nationaux que ses voisins?
On ne peut pas le dire puisque 237 films français sont sortis en France en 2018 contre 228 films allemands outre-Rhin et 210 films italiens en Italie. Quant au Royaume-Uni, sa situation est particulière car sur 202 films réputés britanniques, 179 sont qualifiés d'indépendants, les 23 autres étant en réalité de grandes coproductions anglo-américaines issues des studios de d'Hollywood. De ce fait, la part des films britanniques dans le total des recettes du cinéma atteint outre-Manche 45%, mais si l'on ne retient que les films purement britanniques, cette part n'est plus que de 12%.
Qu'en est-il des autres pays ?
La France se distingue encore une fois avec une part très élevée de 39% en 2018 pour les films français dans le total des entrées. Dans chacun de leurs pays respectifs, cette part des films nationaux n'est que de 23% en Allemagne et en Italie et de 18% en Espagne. Cet engouement pour le Made in France dans l'Hexagone se retrouve d'ailleurs dans le hit parade des 20 films les plus visionnés en Europe en 2018. Plutôt derrière 7 blockbusters anglo-américains comme Bohemian Rhapsody, Fantastic Beasts ou Johnny English, on trouve 8 comédies françaises comme La Ch'tite Famille, Les Tuches ou Le Grand Bain. Un seul film espagnol dans ce palmarès, Champion, et un seul film allemand, Jim Bouton et La Cité des Dragons.
Pas de film italien ?
Non, le cinéma italien n'est pas à la noce depuis quelques années et il n'était même pas représenté en 2018 dans les 10 films les plus vus en Italie. En 2019, il semble se redresser avec l'entrée de Il Primo Natale dans le top 10 italien, tandis que les recettes totales du cinéma dans la péninsule ont bondi de 14% l'an dernier. À 630 millions d'euros, elle représente cependant moins de la moitié de celle du cinéma en France.
Est-ce que le succès du cinéma français s'explique par l'importance des subventions publiques ?
Contrairement à une idée reçue, la France n'est pas la seule à subventionner son cinéma. Non seulement tous les pays le font, mais le niveau des aides directes est comparable, que ce soit en Allemagne ou au Royaume-Uni, aux 250 millions d'euros annuels apportés dans l'Hexagone par le Centre National du Cinéma ou sous forme de crédit d'impôt. Même l'Italie a récemment créé un fonds de 400 millions d'euros pour soutenir son secteur audiovisuel. Cela dit, l'originalité du système français tient à son approche globale en faveur de la création audiovisuelle. Ainsi, les chaînes de télévision financent-elles chaque année le cinéma français pour un montant d'environ 300 millions d'euros via des pré-achats ou de la coproduction de films. Ce rôle des télévisions se retrouve chez nos voisins, mais dans une bien moindre mesure. Ce qui explique que, globalement, le cinéma français est bien le plus soutenu d'Europe.
Finalement, comment se porte le cinéma européen, Daniel ?
Globalement, le nombre de films produits est sur une tendance haussière depuis une vingtaine d'années. Reste que, par rapport aux superproductions américaines, indiennes ou chinoises, les films européens touchent beaucoup moins un public de masse, y compris en Europe. Seules quelques grandes comédies populaires, notamment en France, réalisent en salle des scores de plusieurs millions de spectateurs.
Merci Daniel Vigneron. Cette chronique est à retrouver sur votre site myeurope.info.
Dread Sovereign. How much are we bound to heaven and daily thanks that gave us such a prince?
William Shakespeare a-t-il réellement écrit toute son œuvre ? La question agite les spécialistes depuis de nombreuses années. En novembre dernier, un début de réponse est venu de la République tchèque. Grâce à un algorithme, un linguiste affirme que Shakespeare n'a écrit qu'un tiers de l'une de ses dernières pièces de théâtre, la fameuse histoire de la vie du roi Henri le 8e, Alexis Rosenzweig.
Le drame historique a été publié en 1613 et en 1850, un certain James Spedding expliquait déjà dans un article que William Shakespeare n'en était pas le seul auteur et que l'écrivain John Fletcher avait peut-être contribué à sa rédaction. Récemment, les travaux du Tchèque Peter Plechatch sont venus soutenir scientifiquement cette hypothèse. Spécialisé dans la linguistique et l'étude de la versification, Peter Plechatch travaille à l'Institut de littérature de l'Académie tchèque des sciences et il a utilisé l'intelligence artificielle pour démontrer que la pièce avait été écrite à quatre mains. Récurrence de certains mots, rythmique des syllabes accentuées et non accentuées, retranscrites numériquement de façon binaire. L'intelligence artificielle a pris en compte ces éléments et bien d'autres encore afin de différencier avec précision les styles des deux auteurs à partir de leurs ouvrages respectifs rédigés à la même période. Grâce à l'intelligence artificielle, Peter Plechatch affirme que Fletcher a rédigé environ la moitié du livre. Il estime que ce résultat est fiable à 98% et a par ailleurs permis de réfuter la thèse selon laquelle un autre assistant de Shakespeare aurait participé à la rédaction d'Henri VIII. Le travail du chercheur tchèque a été très remarqué dans les médias anglo-saxons et même par le prestigieux MIT Technology Review. L'universitaire a déjà reçu plusieurs prix pour ses recherches dans le passé, mais il reste modeste et affirme que son travail a seulement permis de confirmer scientifiquement ce que beaucoup avant lui soupçonnaient déjà.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot aujourd'hui. Pour nous écouter partout, rendez-vous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast. À demain.